comme je disais, nous allons parler des vampires de choc de la littérature d'aujourd'hui et plus si affinité avec Cassandra O'Donnell qui écrit Les aventures de Rebecca Keane, sorcière de guerre et qui rencontre, qui a des soucis avec un vampire, où là il y a affinité définitivement, mais bon, nous allons revenir dessus. L'ICAM qui, avec Léna Chetou, la chronique des Striges, nous parle elle aussi de vampires, mais là, son héros est un jeune garçon, donc, mais là aussi un vampire de choc, nous reviendrons dessus. Sophie Dabatte, qui, elle, a écrit Changelin. Je prononce correctement.
Tout à fait.
Voilà, Changelin, dont le tome 1 Évolution est sorti, et où là, nous avons affaire à une strige. Donc, Sophie nous expliquera un petit peu les différences entre autres d'alimentation par rapport aux vampires. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jay Wells, qui est venu des États-Unis. L'auteur des aventures de Sabina Ken. Et donc, et je tiens à remercier Charlotte Bousquet qui, au débeauté comme ça, est venue assurer la traduction. Donc vraiment, je la remercie parce que je sais ce que c'est quand on doit assurer comme ça très vite sans préparation. Et donc, pour entamer tout de suite nos vampires de choc, bon, j'ai constaté qu'entre nos quatre auteurs, on pouvait déjà peut-être établir une petite différence au niveau des romans et des histoires, puisque chez Jay Wells et chez Cassandra O'Donnell, nous avons affaire à des héroïnes, et chez Licam à un héros, un garçon, et chez Sophie, donc, à une jeune fille adolescente. Donc, je pense que le premier point qui serait intéressant, c'est que ces dernières années où il y a beaucoup de renouveau vampirique, pourquoi avoir choisi ces personnages plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui vous a attiré pour mettre en scène plutôt des femmes, pas forcément vampires, donc, et pourquoi donc? Qui veut commencer?
Je vous sauve, allez.
Voilà. Cassandra pour commencer.
Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi une femme, c'était parce que j'avais un petit peu moins de difficultés à m'identifier un personnage féminin, bien évidemment. La raison pour laquelle j'ai choisi que c'était une sorcière, parce que depuis toute petite, dans mon imaginaire, quand j'étais enfant, on jouait avec une bande d'amis, des copines, quand on était toute petite, à des jeux de sorcières, et que j'ai pas beaucoup grandi, et qu'effectivement, j'ai gardé cette image de la sorcière pendant des années, qui a évolué, et aujourd'hui, ça a donné une sorcière de guerre, effectivement, puisque c'est... Je suis un enfant aussi de la BD, de la fantasy, etc. Ça donnait donc cette sorcière de guerre avec toute une mythologie derrière, etc. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi un personnage féminin, c'est vraiment pour une question d'identification directe. Comme en plus, Rebecca, il y a une bonne partie de... On met toujours une petite partie de ce qu'on est dans nos personnages. Ça me semblait plus facile que de créer un personnage masculin. Maintenant, c'est propre à chaque auteur.
Alors moi j'ai choisi de travailler un personnage masculin parce qu'en fait je suis partie du mythe originel écrit par Bram Stoker et je voulais démonstrer, c'est-à-dire enlever la partie monstrueuse, mais en même temps je voulais quand même garder les points forts du personnage, et donc je suis partie d'un personnage masculin, un adolescent qui se bat contre sa nature vampirique. Mais ça reste effectivement un homme, mais avec un côté prédateur très prononcé.
De mon côté, en fait, je suis un peu comme Cassandra. Je suis partie surtout sur un personnage féminin, car j'ai beaucoup d'affinités pour écrire. J'aurais du mal à écrire avec une voix d'homme. Je ne dis pas que je n'aime pas les hommes, mais je suis incapable de comprendre souvent comment ils fonctionnent. Donc, je serais incapable de décrire, je dirais, de façon assez réaliste, les réactions, la manière de parler. J'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, c'était obligatoirement une femme pour moi. Et pourquoi une jeune fille? Parce que c'est une période, j'ai envie de dire, dont je ne me suis jamais remise. Une période de doute, de changement, où on s'interroge, où on change. D'où aussi le titre de mon roman « Changelin ». Il y avait le fait de faire se rapprocher du mythe des enfants des fées qui sont échangés dans le berceau, et aussi le fait de faire un jeu de mots avec le changement, l'adolescence, plus les changements d'une mutation, d'une jeune fille tourmentée et qui craint de devenir folle.
If I understand the question correctly, I write a woman. Because I like stories that have anti-heroes, which is characters that aren't clearly good or evil. They could really go either way. And I didn't see a lot of female anti-heroes in fiction. You see a lot of men. My favorite TV shows, for example, Sopranos, things like this, you love to hate them. And I wanted to write a woman that you love to hate because I thought it would be interesting.
Okay. Alors, moi j'ai choisi une femme parce que j'adore les anti-héros, de ce que j'ai compris. Hein. J'adore les anti-héros et je me suis aperçue dans mes lectures et même dans les séries comme les Sopranos que des anti-héros, on en avait beaucoup, mais c'était des hommes, comme par exemple Tony Soprano, mais qu'on avait, on avait très très peu de femmes. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser à une femme anti-héros.
Keep going.
Yes. Oui, non, c'est bon.
And I don't know. I mean, why not write a woman? I mean, it's not that I know women better than men, but why would the default be a man? I think women are just as interesting as men to write about, and so that's what I wrote about.
Okay, pourquoi pas une femme? Je pense que tu m'aides, hein, parce que j'ai pas tout. Que les femmes sont aussi intéressantes et peuvent être aussi complexes que les hommes. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette histoire. Je crois que c'est à peu près
c'est
ça. Hein.
C'est ça. Alors, moi, j'aurais une autre question qui s'adresse là encore à Jay et à Cassandra. C'est que dans vos deux cas, vos héroïnes sont des métisses. Elles sont un mélange de races. Et. Quelle a été la raison de ce choix par rapport à l'ICAM ou à Sophie, chez lesquels les personnages ne sont pas des mélanges? Est-ce que c'était simplement du politiquement correct? Cassandra, si vous pouvez commencer à répondre pendant qu'on traduit.
Non, en réalité, c'est pas pour être politiquement correct, qu'on soit très clair, surtout que mon personnage est politiquement complètement incorrect. Donc, effectivement, non, c'était pas du tout pour ça. C'était parce que le personnage était tellement complexe, le personnage de Rebecca était tellement complexe, tellement puissant, que c'était fortement un mélange de plein d'espèces. Donc, je voyais difficilement une seule espèce être aussi dominante, particulière, puisque les sorcières ne sont pas humaines dans le postulat, du moins que j'ai pris. Donc, effectivement, ça me semblait aller de source, puisque c'est ce mélange justement pour expliquer la puissance phénoménale qu'a cette sorcière, mais pas seulement. Et pour le coup, non, ça n'avait rien, absolument rien à voir avec ça. Je ne sais pas pour Jay, je ne sais pas.
And she don't know for you why?
Okay. I knew I wanted to write about vampires, and I knew I wanted to write about magic.
Je savais que je voulais écrire sur les vampires, je savais que je voulais écrire sur la magie.
And making Sabina half of each was, with these two races that didn't get along, was built-in conflict from the beginning.
Et faire de cette fille finalement une métisse, alors que ce sont deux races qui s'opposent, bah, c'était une manière de créer un conflit.
But from a character standpoint, Sabina starts out as almost completely vampire. She does not do any magic. And so I knew I wanted to do a journey for her where she found the balance between her two sides.
Au départ, Sabina Cain n'est pratiquement que vampire, elle ne pratique pas de magie. Et au fur et à mesure, je voulais faire en sorte que l'histoire de Sabina soit aussi l'histoire de son apprentissage de la magie jusqu'à ce qu'elle réussisse à trouver un équilibre entre les deux.
C'est exactement ça, en fait. On sert de ça justement pour l'équilibre. Et c'est pareil dans Rebecca, puisque ces deux origines s'opposent de la même façon. Et ils ne sont normalement absolument pas compatibles. Donc, pour le coup, c'est un ressort qu'on a utilisé toutes les deux, effectivement.
Toutes les quatre.
Alors, on fait toutes les quatre. Donc.
Voire même toutes les quatre, parce que en ce qui concerne les Machtou, c'est un vampire, mais qui essaye de s'intégrer dans la société des humains. Les vampires dans les Machtou sont prisonniers dans des ghettos. Il est l'un des seuls à en sortir, puisque c'est un prince. Mais il doit s'intégrer dans le monde des hommes et lutter contre sa prédation au jour le jour. Donc en fait, c'est un personnage qui est aussi partagé en deux, qui est aussi privé, et qui doit lutter contre sa vraie nature pour s'intégrer. Il y a un enjeu derrière, c'est-à-dire qu'il veut prouver qu'il y a possibilité que les deux races coexistent, maintenant avec la science, avec le sang artificiel, des tas de choses comme ça.
You want to prove that the coexistence between men and the bear is possible.
De mon côté, avec Cyrine, c'était exactement les mêmes raisons qui m'ont poussée à faire d'elle à la fois une métisse franco-marocaine et une métisse mi-humaine, mi-« monstrueuse », car elle a par son père, qui est marocain, et dont la lignée descend d'une créature surnaturelle, elle a toute cette, cette étrangeté qui s'oppose à sa culture française dont elle a hérité par sa mère et par son côté humain qui la pousse à rejeter les pulsions surnaturelles qui lui viennent. Et je voulais aussi montrer qu'elle était déchirée, la mettre en position de faiblesse pour que ça la force à se chercher, à essayer de faire cohabiter en elle ces différences, alors que le monde autour d'elle, dans son lycée, dans sa famille, elle est rejetée pour ces différences à la fois culturelles et surnaturelles.
Do you have anything to add?
About why I did that? Well, I also felt it was interesting because it's not just vampires and mages in my world. There are demons, fairies, werewolves. There's an occasional zombie. they show up every now and then. But I wanted to see also how those two races were kind of the major races, but how the interplay of all of them affected her and everybody taking sides in the politics.
Alors, donc moi, j'ai un monde qui n'est pas juste composé de mages et de vampires. Il y a également des loups-garous, des vampires, des démons et quelques vampires, des zombies. Mais l'intérêt, c'était de voir comment ces deux races majeures qui s'opposent, qui sont les mages et les vampires, vont finalement entraîner toutes les autres races dans leur guerre et les obliger à prendre parti.
Alors, justement. Là, on arrive à la partie de ce débat, quelque part, qui est plus si affinité, parce qu'en fait, on constate que chez vos personnages principaux, se développe une histoire d'amour qui, théoriquement, est une histoire d'amour, si ce n'est totalement impossible, souvent très difficile, parce que on tombe amoureux, Sabina Cain tombe amoureuse d'un mage, hein, donc l'ennemi en théorie d'après son éducation. Rebecca Kim, elle tombe amoureuse de plein de gens différents. Hein.
Non.
Vampire, loup-garou.
Non.
Plus exactement, eux tombent amoureux, voilà. Donc, est-ce que vous pourriez développer alors le côté justement affinité, pourquoi dans vos personnages? Et je n'accepterai pas comme simple réponse, c'est parce qu'il fallait écrire le roman et que ça marchait mieux comme ça.
Non. Pour Rebecca, la difficulté, c'était d'aimer tout court. C'était pas le problème de créer, en fait, de tomber amoureuse de tel ou tel homme ou appartenant à telle ou telle espèce. Le problème en lui-même, c'était déjà d'aimer. Et elle avait déjà cette difficulté-là. Et effectivement, non, elle ne tombe pas amoureuse. Justement, c'est quelqu'un qui ne tombe pratiquement pas du tout amoureux. Il y a une histoire d'amour, effectivement, il y en a une. Et après, il y a des histoires d'amitié, il y a des rencontres, il y a des affinités. Il peut y avoir du sexe, mais amoureuse, non, c'est un personnage qui a justement ce handicap-là du fait de ce qu'elle est, de sa nature même. Donc effectivement, c'est pas quelqu'un de romantique pour deux sous, c'est pas quelqu'un de qui aime facilement, c'est pas quelqu'un qui s'attache facilement. Donc effectivement, c'est le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour, et c'est justement parce qu'elle est difficile, et que quand c'est pas la nature d'une femme, justement, de tomber amoureuse toutes les 5 minutes, c'est d'autant plus important.
Oui, parce qu'il y a eu en plus le rejet du père de sa fille.
Le rejet du père de sa fille, c'est parce qu'elle-même ne voyait pas vraiment d'intérêt non plus à rester avec le père de sa fille. Elle n'était pas amoureuse de lui. C'était pas le problème. Rebecca, c'est un personnage, c'est l'héroïne qui n'est absolument pas romantique à la base. Donc elle a pas un cœur fragile, elle est sûre d'elle, elle peut être antipathique, arrogante. C'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça, et qui est dur profondément. Donc là, effectivement, au fil des tomes, justement, elle qui n'est pas humaine apprend l'humanité, elle apprend à aimer, mais c'est pas quelque chose de naturel qu'elle a découvert. Elle a jamais su ce que c'était.
For me, it goes back to Sabina being an anti-hero and about the character's journey. She starts out very broken.
Alors pour moi, c'est vraiment une histoire de quête initiatique et de anti-héros. Et dès le départ, Sabina est quelqu'un de complètement brisé.
And part of the journey to balance is learning how to love and how to have healthy relationships and healthy family, a family of your choosing instead of this evil grandmother who's trying to kill you and things like that. So I think finding love is part of the journey that everyone has to becoming whole, really.
Okay. Alors, pour moi, c'est vraiment une question d'apprentissage. Ça faisait partie du fait d'apprendre à aimer, le fait d'apprendre aussi à avoir cet équilibre entre ces deux natures, et puis d'avoir des relations qui soient saines et pas des relations avec une horrible grand-mère qui essaie de vous tuer, globalement. Et c'est vraiment ce qui fait partie de l'apprentissage de Sabina Cain.
And the reason that her love interest is a mage is it mirrors her parents' relationship, which was a forbidden love between a vampire and a mage. And so, in a way, it's a reflection of that, and can she make it work when her parents ended so tragically?
Alors, c'est aussi cette relation amoureuse avec un mage, c'est aussi le miroir de la relation qu'ont eu ses propres parents, qui est une relation interdite.
Elle essaye de répéter et de montrer que ça peut bien finir, voilà. Parce que l'amour de ses parents, qui est un amour interdit, lui, c'est très mal terminé.
Merci.
Et j'ajouterais aussi, donc si j'ai bien compris, ce qui vous intéressait, c'était de montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Que contrairement à ce que dit la psychologie habituellement, il n'y a pas de fatalité, les enfants ne sont pas obligés de répéter les erreurs des parents. Says current psychology.
Well, a very large theme in the series is the idea of fate versus self-determination. Can you make your own choices, or is fate playing a hand? And I play with that a lot in Sabina's journey, and that would be one element of the layers of that theme. Would be, are you kind of doomed by your genes? I guess.
Dans les séries, dans les romans, il y a beaucoup, on parle énormément de la prédestination, du fait que ce soit de toute façon votre destin et que vous n'y puissiez rien. Et finalement, cette histoire d'amour, qui fait partie de l'apprentissage de Sabina, c'est que finalement, on peut faire ses propres choix et on n'est pas totalement lié à une espèce de fatalité qu'on ne devrait pas dépasser.
De mon côté, en fait, Cyrine, dans Changelin, l'héroïne Cyrine, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour avec elle, du moins pas dans le premier tome. Il y a une ébauche d'histoire d'amour, mais comme l'héroïne ne s'aime pas, elle n'accepte pas ce qu'elle est en train de devenir, elle se rejette totalement, elle ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, car comme elle ne s'aime pas, elle n'accepte pas que quelqu'un puisse l'aimer, elle n'accepte pas elle-même de s'aimer. Il y a un début de relation avec un garçon. Elle pense en être tombée amoureuse parce que c'est la seule personne qui l'accepte mieux qu'elle-même ne s'accepte. Et il la soutient en permanence, mais en fait, elle est amoureuse de l'idée de l'amour, de l'idée qu'elle s'en fait, d'un espoir. Mais elle s'aperçoit après qu'elle est amoureuse du soutien qu'il lui donne. Mais au fur et à mesure qu'elle va commencer à s'accepter, qu'elle va commencer à accepter cette part de monstre en elle, elle pourra rencontrer quelqu'un qui l'acceptera, et là il pourra y avoir une histoire d'amour. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Mais dans le tome 2, ça évolue.
Pour l'MH2, en fait, dans la mesure où c'est un boy Strigoi, il a un pouvoir qui s'appelle le Vraja, qui fait qu'il peut séduire tout le monde. Et tout le monde vient à lui. Et c'est un pouvoir qui lui permet normalement de se nourrir, puisque c'est un vampire. Donc c'est un pouvoir pour la sustentation. Le problème, c'est qu'il doit s'intégrer parmi les humains et peut-être, alors c'est pas son but, mais peut-être trouver l'amour parmi les humains. Et donc il a énormément de filles et voire même d'hommes qui sont attirés par son pouvoir, et lui, sa principale préoccupation, c'est d'essayer de les repousser pour ne pas les tuer. Et donc c'est vraiment ce combat. Donc trouver l'amour dans ces circonstances est très difficile. Bon, je ne veux pas révéler la fin du roman, mais tout son combat, c'est effectivement s'humaniser. Et pour lui, quand il pourra trouver l'amour, ce sera vraiment qu'il se sera intégré et qu'il aura vaincu le monstre en lui. Voilà.
C'est en même temps, quelque part, je pense, chez vous deux, une manière, une sorte de parabole par rapport aux changements qui se produisent à l'adolescent chez les humains normaux. Donc là, vos deux héros, je pense que ce n'est pas... C'est à dessein que vous avez pris à l'âge de 15-16 ans, c'est-à-dire le moment où il y a tout ce mal-être, où il faut s'assumer, etc.
Tout à fait. J'avais aussi un double problème. Quand j'ai envoyé le synopsis à mon éditeur, il a dit « Je prends, j'adore, c'est un Twilight à la Marseillaise ». Là, je me suis gratté le crâne et je me suis dit « Il n'y a pas de vampire, il n'y a pas d'histoire d'amour ». Et ça ne se passe pas à Marseille, passé le premier chapitre. Oups, il y a un problème. Et donc, il y avait le côté, je voulais développer, m'éloigner de l'histoire classique de romance, en créant plutôt un côté anti-romance, en mettant l'accent sur d'autres idées. Et aussi, je voulais prouver à mon éditeur que non, je n'avais pas fait un Twilight à la Marseillaise, même si j'adore Twilight et j'adore Marseille, mais ce n'était pas mon propos. Et je voulais surtout traiter la folie et l'adolescence plus que la romance de l'adolescence, en fait.
Alors moi, j'ai choisi effectivement un adolescent de 15 ans qui doit être amené à régner sur un peuple de vampires et qui est éloigné de son peuple pour parfaire son éducation dans une optique politique qui est peut-être... Alors, le Vatican, c'est une uchronie aussi, hein, c'est-à-dire que ça se passe au présent, mais dans un monde où le Vatican a encore une place très importante. Il va y avoir un changement, c'est-à-dire que le Vatican accepte les démons, enfin les striges, et leur permet de vivre parmi les hommes. Et donc lui, il est à la fois adolescent, c'est-à-dire qu'il est en train de changer, il est en train de devenir un homme, il a une sexualité qui se met en place, mais qui se met en place dans un monde où en plus c'est un prédateur. Donc il a deux choses à régler, sa prédation et sa sexualité, c'est-à-dire arriver à s'orienter vers une autre espèce, parce que ce n'est pas un être humain, il faut qu'il apprenne à aimer une autre espèce que la sienne.
A different timeline when something happens.
Okay.
And then the world it will change.
Okay.
So hers is an acronym where the Vatican is stronger and where vampires are, that the existence of vampires is acknowledged by officials.
Donc apprendre à aimer une autre espèce que la sienne quand on est adolescent, déjà il faut apprendre à s'aimer soi, à connaître ses limites. Lui il a des limites qui sont pratiquement, enfin, il a pratiquement pas de limites, et il faut qu'il se limite pour pouvoir aller vers l'humain.
Et alors, justement, vous Cassandra et vous Jay, vous avez choisi donc des femmes plus évoluées, plus mûres, je devrais dire, un peu plus mûres, qui ne sont pas des teenagers, et qui vivent en même temps dans un monde où, contrairement à celui de l'ICAM, l'existence des vampires et autres créatures surnaturelles est quelque chose de caché, et que l'un des points importants, c'est de faire en sorte que surtout les humains ne s'aperçoivent pas qu'ils existent. Donc, est-ce que c'est parce que j'essaye quand même de rester un petit peu aussi dans le thème de la table ronde, est-ce que parce que comme ça, lorsqu'on vit caché, est-ce que les histoires d'amour ne sont pas encore meilleures?
Je pense que si les vampires et les loups-garous et les autres espèces avaient fait leur coming out, je pense pas que ça aurait changé grand chose à l'histoire d'amour en elle-même. En l'occurrence, comme dans le monde, comme chez les humains, il y aura toujours des confrontations, des guerres, des oppositions. Donc à la limite, c'est pas le fait que ce soit en underground, c'est pas le problème. Ça ne concerne pas l'histoire d'amour en elle-même. À mon sens, maintenant, je ne sais pas pour Jay, mais je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit à l'histoire d'amour en elle-même. Mais pour le coup, les guerres existent de toute façon, et les oppositions et les clans différents et les combats. Donc, c'est l'éternelle histoire de Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'on va tomber forcément amoureux de la personne qu'il faut pas. Après, que ce soit dans un monde où on connaisse les démons, les vampires ou les loups-garous ou pas, je crois pas que ça fasse quoi que ce soit au schmilblick.
Focus on whether it's secret.
Okay. The fact that they are hidden, that they live in hiding.
I don't think there was a moment when I said, I chose, it was just there that they were hidden. I think because to open it up, to have them be open, added a whole nother layer to the storytelling. And I wanted the focus to be on her journey instead of how these races interact with humans, because I felt like that added a layer of complexity that I didn't want.
Okay. Alors en fait, mon problème n'était pas. En gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'apprentissage de Sabina et pas des interactions entre les différentes espèces et les humains. Et c'est, si j'ai bien compris, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de les maintenir secrets. Et puis finalement, j'ai pas eu envie de développer plus.
Voilà, parce que ça rajoutait une couche supplémentaire
de
complexité à l'histoire, alors que mon but était de me concentrer sur Sabina et sur les interactions entre les deux races.
And the other part is the world building for the series starts in the Garden of Eden, where the human race goes this way and the dark races go this way, and so to me, the symbolism of keeping vampires and the other dark races in the shadows was kind of important symbolically for the world building.
Alors comme mon histoire commence, enfin l'origine de la série commence dans le jardin d'Éden, où finalement les deux races se séparent. Vous avez donc les humains d'un côté et une race de ténèbres de l'autre côté. C'était important aussi au niveau du symbolisme que les humains restent à la lumière du jour et puis que les vampires et les créatures surnaturelles demeurent dans les ténèbres.
Alors, très bien. Alors je voudrais aussi revenir là, peut-être faire parler un peu Sophie, parce que nous avons parlé en général, mais pour Sophie Dabat, on a parlé de Changelin, mais avant ça, elle avait commis un autre roman, qui s'appelait Erzsébet Báthory, et qui va, où là nous avions affaire à une femme, et une femme, on n'est pas dans une uchronie, là on est dans le monde réel, où Elizabeth Báthory, c'est un personnage historique, et que justement on prend, certains disent être une sorte d'archétype du vampire, c'est le Gilles de Rais féminin quelque part, Elizabeth Báthory. Qu'est-ce qui vous a amené, et qu'est-ce qui vous avait amené après à vous intéresser d'abord à Elizabeth Báthory et ensuite à abandonner un personnage historique comme celui-là au profit de personnages fictionnels?
Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à Elizabeth Báthory, c'est tout simplement le fait que depuis toute petite, je m'intéresse au mythe du vampire, et en faisant des recherches sur Internet, le miracle de l'Internet, j'ai découvert un jour que Dracula, le Vlad Tepes historique, parmi ses descendants, il y avait une petite cousine qui était à la base aussi des mythes du vampire, parce que Elizabeth Báthory était une petite cousine, une descendante du vrai comte Dracula. Ce qui est quand même un hasard assez impressionnant, quand même, que deux des figures légendaires du vampire soient apparentées dans le même dans notre univers, que ce soit vraiment la même famille. Et je trouvais ce personnage particulièrement fascinant. Parce qu'effectivement, elle est très proche de Gilles de Rais, c'est un personnage historique qui sont à la base de nos monstres. Mais contrairement à Gilles de Rais, on n'a jamais eu la preuve que Elizabeth Báthory a vraiment été, a vraiment commis tous les meurtres dont on l'a accusée. Dans les caves du château de Gilles de Rais, on a retrouvé des dizaines de squelettes, de corps. Alors que pour Elizabeth, il n'y a eu que quelques témoignages lors de son procès obtenus sous la torture. Et on n'a pas forcément retrouvé beaucoup de squelettes dans les caves de son château. J'ai envie de dire les deux ou trois malheureux squelettes habituels de cette époque qui étaient quand même assez sanglantes. A priori, Elizabeth, son plus grand crime, ça a été à une époque qui était très violente et patriarcale, ça a été à la mort de son mari, de refuser de se remarier, de gérer son domaine toute seule, et surtout d'avoir été la plus grosse fortune de son pays, plus riche, que le roi de Hongrie, qui était endetté vis-à-vis d'elle. Elle a refusé de se marier à un des cousins du roi, qui donc n'avait plus aucun moyen de payer ses dettes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah tiens, ce serait bien de s'en débarrasser de cette dame. Elle était encombrante. Et donc, peut-être qu'elle a commis des crimes, mais peut-être même qu'elle a commis les crimes dont on l'accuse, peut-être qu'elle prenait des bains de sang de vierge, mais peut-être aussi que les hommes de son époque ont été plus indignés qu'elle commette les mêmes crimes qu'eux, et qu'elle ose le faire sans se cacher sous l'apparente faiblesse de la féminité, qui à l'époque était censée être obéissante et bien cloîtrée.
Curieusement d'ailleurs, ça a été aussi le début du procès de Gilles de Rais, c'est parce qu'il était beaucoup plus riche que le roi de France. Donc, Elizabeth Báthory, première femme vampire indépendante, un précurseur, parce que je ne crois pas que le féminin existe pour le mot.
Je ne crois pas.
Donc, Elizabeth Báthory, un précurseur des femmes indépendantes que nous voyons dans vos romans aujourd'hui.
C'était un précurseur à tel point qu'à cette époque où la femme, c'était l'époque des invasions ottomanes, à cette époque-là, la femme qui se faisait violer, et ça arrivait très souvent, était jugée coupable. Elle a fait instituer des hôpitaux sur son domaine pour qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit soignée et que leurs enfants, parce que ça arrivait très souvent, la contraception à l'époque, ça n'existait pas, pour que leurs enfants soient pris en charge et élevés. Elle a aussi fondé des écoles pour que les femmes soient instruites, qu'elles puissent, parce que quand les hommes partaient à la guerre, ben, il fallait bien que les dames gèrent tout, pour que leurs femmes sachent lire, écrire et compter, parce qu'il fallait ça pour ne pas se faire dépouiller. Donc c'était effectivement une femme de lettres et surtout une femme très en avance sur son époque, et c'est peut-être ce qui a causé sa mort.
Merci Sophie.
Je défends ma cause là.
Oui, tout à fait. Vous avez quelque chose à ajouter?
Oh, that's a lot. I would like to say that I think it's interesting. A lot of people ask, when you talk about BitLit, you talk about them being books for women. I don't see them as books for women. I see them as, if you've written, you may be familiar with Joseph Campbell, with The Hero's Journey. Do you know him? Okay, so traditional fantasy is often based on a hero's journey, which is also in tarot and things like that. But Joseph Campbell talked about the steps of the hero's journey, which many fantasy novels follow.
D'accord. Alors en fait, c'est surtout on parle beaucoup de ce que j'ai compris, c'est que en gros, on dit que la littérature c'est la littérature pour femmes, mais là le problème n'est pas ça. C'est simplement sur à propos de l'apprentissage du héros et des différentes étapes qu'on trouve dans les nouvelles les romans de fantasy de cet apprentissage du héros.
Et c'est ce qu'on trouve dans les livres sur la mythologie de Joseph Campbell, voilà. Qui a établi justement toutes ces différentes étapes.
But what I think Bitlit, which we call urban fantasy in America, does is it tackles the heroine's journey, which has a whole another level, which is an emotional level that is missing from the traditional hero's journey.
Mais je crois qu'en fait, surtout en habité, donc en Amérique, c'est la fantaisie urbaine, c'est vraiment en fait l'apprentissage de l'héroïne avec les différentes étapes émotionnelles de l'adoption d'apprentissage de l'héroïne, tout simplement.
Voilà, et cette étape-là ne figurant pas chez les héros hommes.
Mais c'était bien le zéro sur les héros.
Les zéros, bon.
En résumé, je suis tout à fait d'accord avec Jay. Et ça concerne l'urban fantasy pure. Pas ce que j'appelle pas la paranormal romance, c'est-à-dire qu'effectivement là ce sont des livres qui sont plutôt dédiés aux femmes, un peu comme les San Antonio, les SAS, l'été pour les hommes, faut être très clair. Mais effectivement l'urban fantasy, c'est pas adressé à un sexe en particulier, c'est exactement la même chose. Simplement vous avez une héroïne qui est forte, qui effectivement qui a un apprentissage, qui a le même importance, le même pouvoir et que les hommes, et qui sont tout à fait comparables. Mais pour le coup, ce ne sont pas des romans d'amour, c'est vraiment une quête, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'en France, on ne différencie pas très bien, et on le voit dans les collections, même chez les éditeurs, etc., l'urban fantasy pure de la romance paranormale. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des romans pour les filles. Nous, je crois que dans les Rebecca, on doit avoir 40% de lecteurs masculins.
And I would say that in paranormal romance, the journey is to find love, whereas in urban fantasy, the journey is to find yourself. And part of finding yourself is, part of it, is finding love and also saving the world.
Okay. Alors, en romance paranormal, le but est de trouver l'amour. En fantasy urbaine, le but c'est de se trouver soi-même et l'amour fait partie de cette quête de soi. Et évidemment, l'idée c'est aussi de sauver le monde au passage.
C'est mieux d'ailleurs quand on sait vraiment sauver le monde, mais en l'occurrence c'est exactement ça. C'est la différence qu'il y a entre l'amour et l'amour de soi. C'est-à-dire que les héroïnes en urban fantasy, elles cherchent pas à tomber amoureuses de l'amour, à accumuler les amants, etc. Elles cherchent d'abord à s'aimer, à se comprendre. Et à évoluer. Donc effectivement, c'est une méthode complètement différente. Ils ne sont pas tournés, elles n'ont pas besoin de quelqu'un pour changer. Elles ont besoin que d'elles-mêmes. Et cette force-là, elles la trouvent en elles. Elles n'ont pas besoin d'avoir un miroir en face d'elles.
En fait, l'amour n'est pas le but de l'histoire. Ça peut être une partie de l'intrigue, mais ce n'est pas le but en soi.
On est d'accord. C'est ce qui différencie effectivement l'urban fantasy.
Mon héros, c'est un homme, mais finalement, il est dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de différence de ça entre les sexes. Alors lui, effectivement, c'est un vampire, on peut penser que c'est un peu différent que chez les humains. Mais il aura l'impression d'avoir réussi son intégration et d'avoir réussi ce pourquoi il est venu en Angleterre, que s'il peut se faire des amis et s'il peut trouver quelqu'un, alors, sans parler d'amour, parce que c'est peut-être pas vraiment le mot, mais s'il peut trouver quelqu'un qui lui renvoie un reflet pas trop négatif sur ce qu'il est.
Ce que je vois aussi, l'une des différences, c'est que, pour reprendre ce que vous venez de dire, Jay et Cassandra, c'est que dans le cas de vos deux héroïnes, non seulement c'est un voyage pour se découvrir elle-même, mais c'est aussi, et là c'est peut-être ce qui fait l'une des différences entre la bitlit et la littérature vampirique, c'est que comme ce sont des femmes, elles découvrent dans les deux cas la vie familiale. Dans le cas de Sabina, elle découvre qu'elle a une sœur jumelle dont elle ignorait l'existence jusqu'à peu de temps auparavant. chez vous, Cassandra, ben, Rebecca, il faut quand même qu'elle élève sa fille, et une fille qui n'est pas facile. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, parce que ça apporte justement, là aussi, me semble-t-il, une autre dimension aux péripéties de vos héroïnes.
Forcément, ça rentre en jeu, mais la famille, enfin, c'est un ressort qui est souvent utilisé. Je trouvais que ça manquait beaucoup en urban fantasy. C'est-à-dire qu'on avait, dans les héroïnes, la plupart du temps, elles n'avaient pas d'enfants. Elles n'avaient pas ce genre de contraintes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à aller chercher à l'école, il n'y avait pas à organiser leur repas, il n'y avait pas à regarder leurs devoirs, il n'y avait rien à faire. Et moi, j'avais un petit peu de mal, hein, c'est ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, à m'identifier à un personnage où il n'y avait pas ces obligations-là en plus. Parce que nous, on nous demande de toute façon de faire notre boulot. Alors, en l'occurrence, là, c'est de tuer les gens pendant la journée. Et après, normalement, on rentre chez nous et on s'occupe de notre petite famille. Donc, effectivement, je voulais quelque chose qui soit assez proche de ce que nous, en tant que femmes, on vivait. Bon, à part, effectivement, le fait qu'elle n'a pas un boulot... elle a un
boulot...
Vous
tuez beaucoup de gens dans la journée, dans votre boulot normal, Cassandra?
Non, mais j'en ai meurs d'envie de le faire, si vous saviez.
Well, families are important because families are generally where we start getting screwed up, right? and so they're very rich kind of sources of drama and conflict for people. Do you want to say that first?
Okay. Ben, les familles, c'est important parce que c'est à partir de là que ça commence généralement à partir en vrille et qu'il y a déjà beaucoup de choses intéressantes, des sources de conflits à découvrir dans une famille.
And for Sabina... Because she, when we're talking about balance, she completely lived her life as a vampire, that I thought it would be interesting to have a sister who completely lives as a mage and put them together and see how that works. And so Sabina gets to see what maybe she would have been like if she had been raised a mage, and Maisie gets to see what it would have been like to be a vampire, and just to watch that play off each other was very interesting to me.
Alors, ce qui était très intéressant, c'était de, donc, pour cette histoire de gémellité, c'était de voir, donc finalement, c'est que Sabina est vampire, a été élevée comme une vampire, sa jumelle, elle, est une mage, et a été élevée comme une mage, et en fait, chacune, en se découvrant, peut voir ce qu'aurait été son existence si Sabina avait été élevée comme une mage, et sa sœur jumelle comme un vampire. Et l'idée, c'est de voir, de mettre tout ça ensemble et voir ce qui en sort. C'est à peu près ça.
Oui, tout à fait.
De toute façon, la famille, c'est toujours le lieu de toutes les névroses. Hein. Faut être très clair, ça commence toujours par là. Donc, c'est un ressort qui est souvent utilisé, mais c'est vrai qu'en urban fantasy, c'est utilisé en fantasy énormément. Toute l'histoire familiale, il y a toujours des... Voilà, mais c'est un ressort extrêmement utilisé. Mais c'est vrai qu'en urban fantasy, c'était peu utilisé. Mais je trouve que, effectivement, comme c'est le lieu de toutes les névroses, c'est plutôt intéressant, justement, de développer ce côté-là.
En fait, mon héroïne étant beaucoup plus jeune que les femmes adultes de nos deux auteurs, elle n'a pas leur vécu, leur passé et leurs cicatrices. Et contrairement à Rebecca, elle n'est pas, Cyril n'est pas issue d'une famille ou d'une famille brisée ou d'un passé très 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 douloureux. Au début, sa famille est unie, ses parents sont très ouverts aux différences culturelles l'un de l'autre. Elle a deux frères aînés, deux petites sœurs qu'elle adore. Tout va bien dans le meilleur du monde. Et en fait, comme on disait, la famille, c'est souvent l'endroit de tous les conflits et la transformation, le changement de Cyril va en fait ouvrir une faille dans sa famille et ça va révéler au grand jour tous les non-dits et toutes les petites fissures du quotidien qui vont s'aggraver et s'envenimer au fur et à mesure qu'elle va s'apercevoir que ses parents n'acceptent pas qu'elle change, n'acceptent pas le miroir qu'elle leur renvoie de toutes leurs imperfections et ils vont à la fois refuser de voir ces changements et elle va refuser de voir qu'elle se ferme à eux aussi. Donc ça va fermenter le jour où ça explose. Son père veut la faire interner en asile psychiatrique et elle va taper ses parents. Et après, ça va dégénérer encore, mais j'en dirai pas plus.
C'est pour ça, Nikam, que vous avez préféré que votre héros soit un orphelin.
Il est orphelin dans le premier tome, après dans le deuxième.
il apprend un peu plus de choses sur sa famille, mais c'est vrai que c'est un enfant adopté. C'est-à-dire qu'il est élevé en plus par deux hommes qui sont un guerrier, un Osperat, et un diplomate, vampire, un Nekorat.
Un prêtre,
oui. Un prêtre diplomate. Et donc du coup, il est vraiment entouré par des gens qui n'ont pas forcément d'affection pour lui, ou qui la montrent d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire d'un côté, il a le prêtre guerrier qui est très dur, très sévère, mais qui a quand même une forme d'amour pour lui, qui est prêt à des sacrifices qui vont parfois très loin. Et de l'autre côté, on a Snekurat assez éthéré, qui est plus philosophe, beaucoup plus, peut-être un peu plus féminin dans sa façon d'être, mais plus manipulateur aussi. Et donc, il se retrouve entre deux personnes qui sont de son espèce, mais avec laquelle il y a un tel fossé, parce qu'il y en a un qui a plus de 300 ans et l'autre qui a plus de 200 ans. Il y a un tel fossé générationnel le contact n'est que par des lois à respecter, les lois vampiriques, des choses à ne pas faire parce que c'est des humains. C'est que des contacts qui restreignent la relation.
D'accord. Alors, je vois que l'heure est en train de tourner. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais qu'il y avait des jeunes filles par là, tout à l'heure, qui étaient passionnées par les vampires. Donc, est-ce que vous avez des questions?
Il y en a une, vous l'avez déjà plus ou moins répondu, en fait. Surtout pour Cassandra et...
Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort pour que tout le monde entende, s'il vous plaît?
C'est surtout une question pour Cassandra et Joël, ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant, justement, d'être marketé pour le public féminin?
Moi je peux pas. Nous on a beaucoup de lecteurs masculins justement. Ouais, ça se voit pas, mais en fait.
Il y a quand même un souci, c'est que les couvertures sont hyper féminines.
Ah, mais les couvertures sont super féminines, mais par contre, on a. Moi je sais que.
Enfin,
on s'est induit en erreur.
Oui, mais non, rien.
En même temps, sur les Rebecca, je disais en même temps sur les Rebecca, je ne sais pas si tu as vu certaines couves de SAS avec des nanas moitié nues, etc. C'était pour les mecs. Donc si tu veux, il y a des tas de couves où il y a des nanas où on voit. Moi, je trouve pas que ce soit là pour le coup. Ça me choque pas spécialement, si tu veux.
C'est pas chaud, c'est comme tu
dis,
pour les SAS, les nanas.
Ouais, c'était pas mal.
Mais elles ont toujours des gros flancs, c'est la taille de l'outil qui compte pour les hommes.
Moi, je veux rien dire, hein, mais à la base, je sais pas si ça a joué ou pas, enfin si ça joue ou si ça joue pas, mais je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de lecteurs masculins, et j'étais très étonnée d'ailleurs.
Oui, mais est-ce qu'ils l'assument?
Je sais pas, quand il me...
Bon, pourquoi croyez-vous que je sois ici pour animer une table ronde sur la bitlite et les vampires?
Ouais,
mais si tu regardes un petit peu aussi bien chez Gélu que chez Médi, les couvertures ont tendance quand même à que l'homme-femme, parce qu'il y a une certaine modification qui appelle les femmes plus que les hommes.
En l'occurrence, oui. Mais en fait, Rebecca, au départ, comme effectivement ça pouvait. C'était un essai, c'était la première fois. Donc, pour le coup, on s'est calé sur les standards habituels, mais on ne s'est pas rendu compte qu'effectivement 40% des lecteurs allaient être des mecs. Mais sinon, effectivement, on ne l'aurait certainement pas peut-être fait de cette façon. Mais maintenant, on ne pouvait pas savoir à l'avance que ça intéresserait les hommes. Donc, effectivement, bon. Et puis. C'était comme ça, c'est le marketing, ça, perso. Bon.
Okay, I missed the end of what you said. But is it frustrating that my books are marketed to women? Is that the question? Well, no, because I love women readers. I think women read more books than men, so why not? Second, I think any guy who wouldn't pick up a book because it has a female on the front probably wouldn't like my books anyway. You have to say it.
Déjà, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas parce que, en gros, d'abord, les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. Et ensuite, parce que, en gros, il y a beaucoup d'hommes qui achètent mes bouquins à cause des couvertures. C'est ça qu'elle a dit ou pas, à peu près?
Non.
J'ai pas tout, parce que je suis pas sûre d'avoir tout.
Un homme qui n'achèterait pas
le livre
à cause de. Parce que c'est un.
Parce que c'est un livre qui est marketé pour femmes,
Par le livre, de toute façon, de ce qu'il y a dedans. Quoi.
Non, mais de toute façon, les mecs, enfin moi j'ai remarqué, il y a beaucoup d'hommes qui lisent après. C'est-à-dire que moi, moi, je suis désolée, hein, mais ce sont les femmes qui vont peut-être les acheter, mais après leur mari les récupère. Moi, le mien, par exemple, il est passé comme ça, et j'avais filé, je me souviens au début des exemplaires à des copines, et c'est passé chez les maris et les copains des maris et même à des équipes de foot. Maintenant les douches, je sais pas. Mais en l'occurrence. Pourquoi pas, hein. En l'occurrence, c'est vrai que c'est marketé plutôt pour les femmes, parce qu'on avait au départ ce public-là. Mais ça grandit petit à petit, et puis ça dépend. C'est pareil, si les hommes ne vont pas se diriger du tout vers la paranormal romance, ça c'est clair. Mais vers l'urban fantasy, oui.
C'est intéressant aussi, en termes de marketing.
Ok, l'homme avec cette distinction fantasy urbaine et romance paranormal.
Elle n'est pas faite assez.
Quelque part, les mecs, tu les perds à ce moment-là. Parce que tout est mélangé.
On les récupère là. On les a pas mal récupérés, tu vois.
Avant de passer à la question suivante, Jay a encore un petit point à ajouter, s'il vous plaît.
He wanted me to mention that my covers for these books are the same in America as in France, except I didn't mention that there's a new paperback. Is that what you call the mass market smaller size? Has a different cover that I would say is geared more towards women. It's just I don't know if you've seen the female face with the fangs, and they said they did that because it looked more like a vampire because you can't tell. But I would say it's also a more feminine cover, whereas I think these are. I mean, I think dudes would like these books. You know, strong women on the front.
Alors, en gros, les couvertures de ces romans-là sont les mêmes qu'aux États-Unis. La seule différence, voilà, ça va être la version poche, où là, effectivement, c'est une couverture beaucoup plus féminine, avec une jeune femme avec une bouche rouge et des dents qui sont vampiriques.
But I will say, I do have men come up to me at book signings and say, these books are just for women, right? And I tell them they're allowed to read them. But they often email me after and say I was really surprised because it's like a thriller. There are explosions and guns and lots of fist fights. There's more fist fights and dead bodies than like sex. There's, you know, it's a pretty action adventure kind of series. So I do think the covers can. I think honestly, men don't associate books with females on the cover with a female name on. As the author, that it will be something that they would enjoy, unfortunately.
Ok, alors, moi, il y a des hommes qui viennent me voir en disant, mais c'est des bouquins pour femmes. Je leur dis, mais non, mais lisez-les. Et puis ensuite, ils m'envoient des emails en disant, mais en fait, c'est génial, c'est un thriller, il y a des explosions partout, il y a 10 fois plus de morts que dans un livre beaucoup plus, on va dire, mainstream, ou destiné à un public plus large ou plus masculin. Et en fait, pour en revenir aux couvertures, bah, je pense pas que les. Que ce soit donc particulièrement destiné à un public féminin, c'est bien ça que de toute façon la couverture, les gens qui n'accrochent pas, n'achètent pas, enfin c'est pas. La fin, j'ai pas tout compris en fait. C'est les dernières phrases, j'ai pas tout compris, donc je dis au secours.
Non, c'est que, en fait, si j'ai bien retenu ce qu'a dit la fin, parce que c'est vrai que c'était long, j'essayais aussi de m'accrocher, c'est que les hommes. Ne regarde pas particulièrement la couverture et ne regarde pas non plus le nom de l'auteur de voir que c'est une femme en se disant ah mais parce que c'est une femme du coup ça ne m'accrochera pas.
Mais en fait, non, je crois qu'elle a dit le contraire justement.
Ah bon?
Ouais, elle a dit le contraire. Alors,
c'est moi qui étais très fatiguée.
En fait, on est tous fatigués.
Non, elle a dit que malheureusement il y a beaucoup d'hommes qui refusent effectivement de lire des bouquins même écrits par des femmes. Donc bon, je sais pas du tout. J'ai pas les statistiques pour pouvoir répondre. Mais pour le coup, l'urban fantasy, quand les hommes la découvrent, ils adorent effectivement. Parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a du sexe, parce qu'il y a de la torture, parce qu'il y a des enjeux qui sont phénoménaux. Et il y a de la mythologie, parce qu'il y a 10 millions de choses qui les passionnent et les intéressent. Et effectivement, dans l'urban fantasy, c'est 10 fois plus violent que dans la paranormal romance, ça c'est clair. Ça n'a aucun rapport.
Dernière question, alors.
Et aussi donc le rapport au sang, par exemple, le personnage de Sophie, lui,
Moi, j'ai pas. Enfin, je peux pas. Malheureusement, je peux pas vous parler du personnage du vampire qui est Raphaël dans mon livre sans dévoiler l'essentiel. Et vous m'avez posé une question qui me gêne beaucoup, parce que malheureusement, je peux pas y répondre là, sans spoiler. Il faut être très clair. Donc, mais par contre, effectivement, moi, je me suis un peu détachée quand même. Il faut être très clair. Je me suis même largement détachée. Mais dans le cadre de mon vampire, enfin, qui est Raphaël, qui a 2500 ans. Je peux malheureusement, je peux pas vous dire. Maintenant, je vais laisser Jay peut-être elle. Jay, pour les vampires, je sais pas si elle a entendu la.
On était en train de traduire, donc peut-être. Do you want one more second to think about it?
No, I can.
Okay.
Okay. I think I understand the question. My vampires are not made; they are born. It's a race of vampires that came from Lilith. Lilith and Cain got it on and made some vampires, and so they do need blood, but they don't. They are not reborn like the classical vampires.
Alors mes vampires sont une race. Ils naissent vampires. Ce sont pas des revenants. Ils n'ont pas besoin de sang. Ce sont les descendants de Lilith et Cain. Donc en fait c'est vraiment une race à part. Et il n'y a pas de rapport avec ce côté revenant encore qu'on peut voir dans certaines traditions vampiriques.
But the there's an interesting for example, it's a domination among them. If one vampire bites another vampire, it's a big dominance and submission thing. So there's a lot of political things with blood, even though they are coming back to life for blood. It's important to their culture.
Alors en fait, en revanche, il y a énormément de rapports de domination. C'est une société qui est basée sur la domination, et si j'ai bien compris, le sang intervient dans les rapports de domination. Le sang sert à servir.
Lorsqu'un vampire en mord un autre, ça lui permet d'établir sa domination.
D'accord, mais en fait, c'est un peu comme marquer son territoire.
Voilà.
It's like
dog, you know, establishing a wolf in a wolf pack, or like in a wolf pack.
It's the ultimate form of submission for a vampire to allow another one to bite them.
C'est une vieille tradition de soumission de permettre à un autre vampire de vous mordre. C'est une tradition de soumission d'offrir sa gorge.
Alors, en ce qui concerne les Majtou, ce ne sont pas des revenants encore, ce sont des êtres vivants qui sont en fait une mutation de l'espèce humaine qui s'est faite il y a à peu près 8000 ans. C'est une espèce différenciée en castes, c'est-à-dire qu'il y a des Nekura, des Nosferat, des Strigoi, des Voivod Strigoi. Et chaque caste. Du point de vue humain, pourrait paraître comme une espèce différente, alors que c'est en fait la même espèce, et c'est la consommation du sang, la quantité de sang consommée, qui fait qu'un vampire appartient à une caste ou à une autre. Il y a le simple Strigoi, c'est le plus gros, on va dire. On va parler un peu d'économie sanguinaire. Et puis au-dessus, il y a le Voivode, qui lui consomme énormément de sang, et donc a développé des pouvoirs maléfiques, entre guillemets, des pouvoirs psychiques beaucoup plus importants que les autres.
Et dans mon univers, en fait, puisque la question était aussi pour moi, je ne suis pas partie du mythe du vampire classique, en fait. Je suis partie à la base du personnage du djinn des légendes arabes. Donc la créature, c'est une djinnéa, c'est le pendant féminin du djinn. Et la jeune fille qui héberge cette créature, ou qui en est issue, je ne dirais pas après la suite, parce que c'est dans le tome 2, mais cette jeune fille qui à la base est humaine va petit à petit changer, je dirais c'est un peu comme une grossesse. Au début, il n'y a rien. Et petit à petit, il va y avoir des changements dans son cœur, des protubérances qui vont pousser. Et au bout de quelques mois, dans une explosion de sang et de terribles souffrances, ça va se révéler au grand jour et provoquer encore d'autres changements. Quant au sang, puisque c'était aussi la question à la base, personnellement, j'aime pas trop ça, donc je n'avais pas envie d'avoir un rapport au sang directement. Mais je voulais pouvoir m'identifier à l'héroïne, et là c'était vraiment très subjectif. J'ai choisi quelque chose que j'aime, le steak tartare. Donc voilà. Et comme je voulais aussi avoir quelques éléments d'horreur, j'ai pris l'opposé, quelque chose que je déteste, la cervelle. Et le roman commence pour cette raison avec une scène assez dégoûtante de dégustation de cervelle.
Eh bien, sur ce, j'espère que ce mot de la fin vous aura ouvert l'appétit. Et donc, comme je crois que la table ronde suivante s'impatiente pour rentrer, eh bien, écoutez, merci à nos auteurs pour cette table ronde.
Merci,
Charles. I'm just